Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal, Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité à Beni au Nord Kivu, des rares pharmacies sont actuellement gérées par des professionnels formés. D'autres sont tenues par des amateurs qui les transforment en postes de santé. Pendant ces temps, la ville de Bukavu au Sud Kivu compte seulement 219 pharmaciens pas capables de satisfaire les besoins des malades. La représentante du HCRA-RDC a remis hier après-midi les titres de propriété aux familles des retournés d'Angola vivant à Chamusanda, non loin de la ville de Chicapa. Ce site avait été aménagé par le HCR pour ces retournés d'Angola depuis plus d'une année. Notre invité, c'est le vice-président de la société civile de Beni au Nord Kivu, Richard Kirimba, revient sur la formation organisée par la section de l'information publique de la MONUSCO en faveur de représentants des partis politiques et des jeunes d'Oïcha à Beni sur la lutte contre la désinformation et les discours de haine. Madame, Messieurs, bonsoir. Le 25 septembre, c'était hier, la journée internationale des pharmaciens. Au Nord Kivu, si quelques rares pharmacies sont actuellement gérées par des personnes formées, en revanche, des nombreuses autres sont des boutiques qui sont tenues par des amateurs qui les transforment en postes de santé avec beaucoup de risques. Pour en parler, retrouvons à Beni Guylaine Kassassia.
Il y a environ une année, un homme perdait la vie à Beni à la suite des complications d'un mauvais traitement reçu dans une pharmacie de la place. À Beni, où l'on trouve quelques pharmaciens de formation, beaucoup exercent ce métier sans qualification, avec tous les risques encourus par le patient, de risques qui peuvent aller jusqu'à la mort. Deodatou Mboussan Zanzou, président des tenanciers de pharmacie dans la ville et territoire de Beni, explique.
C'est un danger. Quand vous vendez les médicaments, vous n'êtes pas associé aux autres. Vous ne saurez pas quel médicament est devenu prohibé. Vous ne saurez pas les nouvelles restrictions par rapport à la gestion des médicaments. Les conséquences sont toujours visibles. On a toujours eu des dessins dans des pharmacies, des indépendants.
Deodat Mboussan Zanzou décourage le fait de soigner des malades dans des officines de pharmacie. Il estime que les pharmaciens ne peuvent donner que des soins de secours à un malade puis l'orienter à un laboratoire.
Tous nos membres sont saisis et ils savent que leur problème n'est pas de soigner mais plutôt de distribuer le médicament sur base aussi des ordonnances et autres restrictions. Quand vous recevez malade, vous allez lui faire les médicaments qui peuvent l'aider dans quelques matins et après vous l'orientez vers les laboratoires.
Il invite les autres tenanciers de pharmacie à adhérer à l'association, cela pour travailler ensemble et limiter ainsi les risques de santé publique. Beni Guylaine Kassassia, Radio Kapi.
Pendant ces temps où le Sud qui vous compte 219 pharmaciens enregistrés à l'ordre, ces chiffres sont loin de satisfaire les besoins des malades. Les membres de cette corporation étaient en conférence hier autour du thème pharmacien congolais au centre de l'offre à la couverture de la santé universelle. Reportage à Bukavu de Rachel Kessemangou.
Ils sont non seulement responsables de la dispensation des médicaments, mais également l'éducation des patients sur leur utilisation appropriée. C'est ce qu'affirme le vice-président du conseil provincial des pharmaciens au Sud Kivu, Georges Mutombo, qui condamne la prolifération des pharmacies dans la ville de Bukavu, car selon lui, seuls 219 pharmaciens sont inscrits au tableau de l'ordre des pharmaciens.
Un pharmacien, c'est un professionnel de la santé publique qui a fait ses études universitaires en sciences pharmaceutiques, qui gère le secteur pharmaceutique depuis la recherche, la production, l'entreposage et la dispensation des médicaments vers les patients. Nous revendiquons le droit que la loi nous a donné. Ces personnes ne sont pas pharmaciens. S'ils veulent être pharmaciens, qu'ils s'inscrivent à la faculté de la pharmacie, qu'ils suivent le cursus normal de formation des pharmaciens. Après, ils vont aussi réclamer les droits que nous réclamons.
Signalons que la célébration de la dite journée s'est soldée par une marche pacifique avec notamment les étudiants en pharmacie. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, au Kasaï, la représentante du HCR en RDC a remis hier le titre de propriété aux familles des retournés d'Angola se trouvant à Chamusanda, un village situé à 15 km de la ville de Chikapa. C'était au cours d'une visite du site qui avait été aménagé par le HCR où les retournés d'Angola sont installés depuis plus d'une année. François Kadima revient de Chamusanda, voici son récit.
Chamusanda est un village situé à 15 km de la ville de Chikapa. Le HCR y a construit 400 abris pour les retournés d'Angola. Suite à l'augmentation de leur nombre, 48 autres ont été ajoutés et ceux qui y habitent ont reçu leur titre de propriété. Ces retournés qui saluent ces gestes disent avoir besoin de l'accompagnement régulier du HCR sur ces sites où il y a encore des besoins, dont le manque d'eau potable.
Et nous demandons à l'HCR de nous accompagner toujours. Nous avons des endroits pour cultiver. Aujourd'hui, tel que cette année, il n'y a pas de semences jusqu'à présent. Nous demandons à l'HCR de nous faire un forage d'eau ici. Plus de 50 vulnérables qui sont ici. L'HCR lui-même a construit ces maisons-là. Mais à cause d'eau, nous avons la difficulté.
La représentante du HCR en RDC a indiqué que l'organisation va continuer à les appuyer dans la mesure de ses moyens et des autres partenaires. Angèle Dikongé à Tangana.
Le travail que nous avons commencé à faire ici, nous allons poursuivre dans la mesure de nos moyens. Nous allons bien sûr continuer aussi à encourager d'autres à nous rejoindre. Vos besoins sont nombreux, il faut plus d'aide.
Ces retournés d'Angola avaient fui la guerre de Kamuina-Nsapu entre 2016 et 2017. De retour de Chamusanda, François Kadima, Radio Capi.
Et puis, 7900 déplacés issus de plus de 100 ménages qui ont fui récemment les affrontements entre les FRDC et les miliciens Mobondo au village de Moulossi vivent dans des conditions extrêmement difficiles dans la province du Kwango. Le cadre de concertation de la société civile et les notables de cette province appellent le gouvernement provincial à assister ces déplacés qui manquent de tout. À Bandunduville, Irène Bomaluzolo.
Dans ces documents remis au gouvernement provincial du Kwango, les cadres de concertation provinciale de la société civile et la notabilité de cette province notent que du 16 au 17 septembre dernier, respectivement au village Mpese et Moulossi dans le secteur de Bukangalonzo, territoire de Kenge, au moins 7957 déplacés, dont 4343 enfants et 2050 femmes ont été signalés. Cela après les affrontements entre les FRDC et la milice Mobondo qui ont fait 18 morts, dont 15 militaires et 3 miliciens. La société civile s'inquiète de la situation socio-sécuritaire et humanitaire précaire de ces déplacés restés à Kenge, au Pont Kwango, à Bukangalonzo secteur et ailleurs. Lucien Lufutu est son président.
Ces déplacés sont dans des situations difficiles. C'est comme ça que le cadre de concertation provinciale de la société civile souhaite demander au gouvernement à organiser une enquête pour évaluer les dégâts occasionnés par les affrontements entre Mobondo et FRDC et établir leurs responsabilités. Nous demandons aussi aux humanitaires de venir secourir les déplacés qui sont en situation difficile.
D'après Lucien Lufutu, les zones de santé de Popokabaka et de Boko sont actuellement en difficulté au regard des nombres très importants de déplacés récits. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, le calme est revenu hier lundi au village de Museka dans la chefferie de Kiumba, territoire de Malembankulu, province du Haut-Lomami, au lendemain d'une journée agitée par la mort par balle de deux hommes. À la base, un conflit coutumier mettant en cause le chef Charles Ndoulou. Des personnes contactées par Radio Okapi affirment que la loi coutumière doit être scrupuleusement respectée pour que seul l'ayant droit soit installé. Les mêmes sources indique que les conflits s'expliquent actuellement aussi par le fait que la chefferie de Museka regorge d'importants gisements de lithium et de l'or. À Lubumbashi, la correspondance de Jean-Gandou Kabongo.
Tout est parti de la descente le week-end dernier d'une équipe conduite par le ministre provincial de l'Intérieur qui allait à Museka pour organiser des consultations en vue de l'installation des nouveaux chefs coutumiers. Visiblement, cette nouvelle n'a pas plu à ceux qui soutiennent le chef Charles Ndoulou, considéré par ses proches comme le seul ayant droit, mais contesté par un autre camp. une partie de la population a commencé à manifester lorsqu'elle a appris que la délégation des Kamina s'apprêtait à rejoindre leur chefferie. C'est dans ces circonstances que les militaires positionnés dans cette contrée ont ouvert le feu sur les manifestants, tuant au passage deux personnes et blessant plusieurs autres. Pour Niemboba Atifiston, notable du Olomami, le chef Charles Ndoulou avait déjà été déçu. Il est un usurpateur qui instrumentalise inutilement les jeunes qui se sont attaqués aux militaires en poste dans cette chefferie.
Il avait été installé arbitrairement. C'est ainsi que ses fils ne comprennent pas aller aux consultations. Parce qu'ils connaissent bien que quand ils vont aller aux consultations, ils risqueraient de tomber. C'est pourquoi il est en train de se faire protéger par ses milices.
Mais pour un autre notable du territoire de Malembankoulou, la coutume doit être respectée. Gilbert Kayumba.
C'est le chef Charles Ndoulou qui doit régner parce qu'il a été désigné légalement. Comme il y a mort d'homme, il faut que la justice soit faite.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
L'actualité, c'est aussi la poursuite à la cour militaire de Goma au Nord Kivu du procès dans l'affaire du carnage des adeptes de Wazalendo du 30 août dernier. L'audience d'hier lundi après-midi a été marquée par la comparution des responsables des services de renseignement de quatre soldats de la garde républicaine et la condamnation d'un défenseur judiciaire pour rébellion et troubles dans la salle d'audience. À Goma, Gabriel Omenyan.
L'audience d'hier lundi qui a commencé par l'audition et la déposition du chef de poste principal de la DGM à la mairie de Goma, Kanane Moussemakweli, surnommé Rams, a été vite suspendue par la cour. C'est en raison d'un cas de flagrance constaté séance tenante dans la salle par le premier président de la cour, le juge d'instruction. En effet, un des avocats qui assiste les quatre soldats de deuxième classe s'est extirpé de la salle d'audience sans avoir avisé la cour alors qu'il devrait les assister et a constaté son absence dans la salle, la cour l'a jugé en procédé de flagrance pour les infractions de la rébellion et des troubles dans la salle d'audience. Le commissaire Aimé Biamungu sera condamné avec admission des circonstances atténuantes à une année de servitude pénale principale assortie de 5 ans de sursis. Par ailleurs, les deux responsables de sécurité de la mairie de Goma qui comparaissent à titre de renseignants, c'est la discordance dans leur déposition. Quant aux quatre soldats de deuxième classe, tous ont nié avoir tiré sur la foule, alors que dans les procès verbaux que détiennent l'organe d'accusation, ils ont confirmé que devant les menaces des manifestants, ils n'avaient qu'un autre choix que de tirer sur la foule. Goma, Gabriel Ouamenya, Radio Kapi.
Et puis, présentation hier lundi des aspects techniques et des maquettes des deux aéroports à construire bientôt à Ntunda dans la ville de Cabinda et à Mweneditu. Les travaux seront exécutés par la société Digital General Trading qui a gagné le marché auprès de la Fédération Fondation José Humanitaire. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la Lomami, Nathan Ilunga. Radio Kapi Mbujimai, Esther Ndalafina.
Au cours de cette activité, Mohamed Mahanaei, directeur général de la société digitale General Trading Ltd, a indiqué que chaque aéroport aura une dimension de 32 km², soit 4 km sur 8 km, avec une piste d'atterrissage de 3,8 km, dont la durée de vie est de 30 ans. Un parking d'une capacité de 200 voitures sera érigé avec un hall à deux niveaux, chacun avec des annexes pour les shopping center pour les achats de passagers, une clinique pour les soins urgents, un salon diplomatique, une suite présidentielle et un espace de banque afin de faciliter le retrait et transactions pour les passagers. Le gouverneur de province, Nathan Ilunga Numbi, a précisé que les travaux de construction de ces deux aéroports peuvent débuter dans un mois si et seulement si l'on rend disponible une première tranche de près d'$1,5 milliard sur les coûts globaux des travaux. Signalons que la construction de ces aéroports permettra de connecter la province de Lomami au reste des provinces de la République démocratique du Congo et de certains pays du monde entier. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Kapi.
Allons maintenant dans la Tchopo où le projet Forest a présenté la semaine dernière à Yangon, à Yanongé, localité située à 60 km à l'ouest de la ville de Kisangani, les résultats des bonnes pratiques agricoles vulgarisées dans la zone de Yangambi. Il s'agit de l'agroforesterie, de la rotation culturelle, de l'amendement organique de la terre et de l'utilisation de la bio. pesticides. C'était lors d'une concertation avec les chefs des secteurs, les chefs de groupement, les membres des communautés locales de développement ainsi que de leaders religieux et d'opinion à Kisangani, Jacques Mukonkole.
Ces pratiques durables ont été expérimentées aux fermes pilotes et ont permis d'améliorer le rendement agricole. Dans son communiqué officiel publié hier à cet effet, le CIFOR précise que la récolte du manioc est passée de 900 kg il y a bientôt 5 ans dans le paysage de Yangambi à 21 500 kg à l'hectare. La récolte du maïs est passée de 700 kg à 1200 kg l'hectare, celle du niébé de 500 kg à 1100 kg l'hectare et celle du riz de 900 kg à 1400 kg l'hectare. Il souligne également que les efforts sont fournis de manière à vulgariser ces améliorations au niveau des paysans à travers l'organisation des journées champêtres et de partage d'expériences. Cela se fera également par l'intensification de suivi des proximités des moniteurs agricoles, l'installation des champs de démonstration et la mise en place des champs écoles paysans. Par ailleurs, la lutte contre les criquets puants est un casse-tête pour les agriculteurs et figure sur la liste des défis à relever. Rappelons que le projet Forest est exécuté dans le paysage de Yangambi par le CIFOR et ses partenaires grâce à l'appui financier de l'Union européenne. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Niger, 2 mois après le putsch, la situation reste compliquée pour la junte. Pour mémoire, le 26 juillet 2023, le président Mohamed Bazoum était renversé par un coup d'état militaire. 2 mois plus tard, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'est installé à Niamey au pouvoir, mais la situation politique et économique du pays reste compliquée selon des observateurs. Non loin de là, au Mali, les autorités de transition viennent d'annoncer le report sine die de la prochaine élection présidentielle et l'annulation des autres scrutins prévus jusque-là. Bamako accuse aujourd'hui une entreprise française d'avoir pris en otage une base de données administrative sur l'état civil malien. L'avocat et ex-ministre Maître Mahamadou Ismaïla Kanoté s'indigne de ses explications qui ne les convainc pas du tout. Il pense qu'ils sont partis pour endormir les gens.
L'invité.
Notre invité, c'est le vice-président de la Société civile de Bénin, Richard Kirimba, revient sur la formation organisée par la section de l'information publique de la MONUSCO en faveur de représentants des partis politiques et des jeunes d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Bénin, sur la lutte contre la désinformation et les discours de haine. Il s'entretient avec Blaise Makassi.
Richard Kirimba, vous venez d'assister à la formation sur la lutte contre la désinformation et la lutte contre le discours de haine. Quelle a été l'importance de cette formation pour vous?
La désinformation, c'est réellement un problème. Ces échanges ont été vraiment importants parce que vous savez, dans cette zone, bien même avant l'avènement des réseaux sociaux, la désinformation a fait des dégâts. Donc nous avons vu des gens qui, par la désinformation, ont perdu leur économies. Il y a des foyers qui sont disloqués à cause de la désinformation. Encore aujourd'hui, faudra-t-il signaler que nous sommes dans une période chaude à politique. On approche les élections. Donc nous estimons que cette formation a été vraiment à sa place, surtout les moments choisis, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on risque de ne pas bien gérer si on ne tient pas compte des discours de la haine elle-même, mais aussi de la désinformation, des informations malveillantes et l'intention des uns et des autres compte dans cette histoire.
Qu'avez-vous retenu et qu'est-ce que vous comptez faire pour permettre aux autres de pouvoir aussi bénéficier de ces enseignements?
Mener une éducation citoyenne, donner de bonnes informations à la population, parce que la désinformation vient aussi lorsqu'il y a absence de la vérité, absence de la bonne information. Et notre rôle, nous nous engageons de nouveau à cela, c'est donner l'information et la bonne à la population, c'est équilibrer les choses lorsqu'elles semblent être utilisées à l'avantage de la désinformation, toujours être là pour équilibrer les événements, à donner de bonnes informations à la population, à recourir aussi aux bonnes sources Parce que ce qu'on ne connaît pas bien, c'est là où on n'a pas trop d'éléments, on risque de tomber dans la désinformation, dans les discours de haine, inutilement. Pour nous, donc, à la société civile, c'est notre réengagement pour donner les vraies informations à la population, la bonne restitution de tout ce que nous venons d'apprendre et documenter les exemples. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'exemples, surtout à cette période politique préélectorale. Il y a beaucoup d'exemples qui peuvent aider d'autres personnes à comprendre qu'on ne devrait pas se jeter dans les discours de haine, on ne devait pas se jeter dans la désinformation, et dans la haine elle-même.
Quelles sont, selon vous, les conséquences néfastes qu'on enregistre à la suite de discours de haine, par exemple ?
La plupart des conflits qu'il y a découlent non seulement des discours de la haine, mais aussi de la désinformation. C'est que les discours de haine sont capables de détruire les tissus sociaux. Et si nous nous engageons contre les discours de haine et contre la désinformation, c'est parce que nous visons à maintenir les tissus sociaux. J'insiste sur les élections, sur la période électorale, parce que d'habitude, après les élections, les tissus sociaux sont détruits. Et il est difficile pour nous de reconstruire ce qui a été détruit par les discours de la haine. Les conséquences sont légion.
Vous, quelle est la décision que vous prenez pour appliquer ces recommandations faites par les modérateurs aujourd'hui?
Nous sommes la coordination de la société civile. Territoire de Beni, nous avons des noyaux dans les communes et les secteurs et chefferies. Et si nous pensons vraiment contribuer à lutter contre la désinformation, ce genre de formation, des matières que nous venons d'avoir, nous donnons comme devoir de nous rassurer que les noyaux, donc nos noyaux, les représentants de la société civile à travers les territoires, ont d'abord ces informations aussi, ou cette formation, pour qu'elle fasse les two-step flow of communication, ça c'est vous qui le dites souvent, donc qu'à partir de nos noyaux, à partir des leaders de la société civile, que leur comportement soit positif dans le sens de la manipulation de l'information, des données à transmettre à la population ou de la perception de certains événements. D'abord par les leaders, parce qu'on nous a dit, on vient de nous apprendre que parmi les acteurs de la désinformation, parmi les acteurs du discours de la haine, il y a les leaders d'opinion. Et parmi les leaders d'opinion, il y a les acteurs de la société civile. C'est pour ça que nous allons travailler d'abord sur nos équipes en termes de restitution. Et les composantes suivront d'une manière ou d'une autre par rapport à lutter contre la désinformation et surtout à cette période préélectorale.
Richard Kirumba, merci.
À moi de vous remercier.
C'était l'invité de Radio Okapi, le vice-président de la société civile de Beni au Nord Kivu, Richard Kirumba, interrogé par Blaise Makassi. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté.